Vous allez écouter Les Pieds dans le Parc, une émission réalisée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et le SMAEV, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.
Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro des Pieds dans le Parc, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui habitent, qui animent et qui font vivre notre beau territoire du Mont Ventoux. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous aborderons les thèmes de la biodiversité et sport de nature. Nous parlerons des richesses biologiques du Ventoux, la faune, la flore, les milieux naturels et de la nécessité de concilier les activités de pleine nature avec leur préservation. Mais pour cette émission, je ne suis pas tout seul, je suis en présence de Anne, ma co-animatrice. Bonjour Anne, je suis ravi de te retrouver.
Bonjour.
Pour ce troisième numéro ensemble de Des Pieds dans le Parc, Anne. Ravi de te retrouver.
Mais c'est partagé.
C'est partagé. Merci. Effectivement, on a aussi un soutien technique. Alors, ce n'est pas qu'Anne aujourd'hui que nous aurons du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux. Nous avons Anthony Roux. Bonjour, Anthony Roux.
Bonjour, Alain.
On est ravi de vous avoir également dans cette émission. Et pour nos auditeurs, je précise que vous êtes le responsable de l'unité patrimoine naturel chargée de mission biodiversité et espace naturel. Je ne me suis pas trompé.
C'est exact.
C'est exact. Merci en tout cas de nous assister pour cette émission. Nous aurons également la présence de Frédéric Rouet, qui est maire de Ville-sur-Ozon, vice-président de la communauté de communes Ventoux Sud. Frédéric Rouet, bonjour.
Bonjour.
Merci également de participer à cette émission.
C'était un vrai plaisir.
Merci. Nous sommes également en présence de Lise Collin, qui est chargée de mission écotourisme. Bonjour, Lise Collin.
Bonjour.
Et également, que je n'oublie personne, Guillaume Folly, ingénieur écologue au bureau d'études Odyssée Environnement à Sceaux. Bonjour, Guillaume.
Bonjour à tous.
Voilà, ben beau plateau aujourd'hui, Anne. Pour cette émission, avec des thèmes qui sont divers et variés, comme je les ai annoncés tout à l'heure. Et nous allons commencer par la toute première partie, le premier thème, et c'est toi qui vas poser les premières questions.
Alors, on va aborder d'abord la biodiversité donc de notre cher Ventoux, où on va demander à Anthony de nous présenter un petit peu les chiffres avec des particularités et tout ce qui va être pris en compte dans la charte du parc naturel régional.
Alors merci de me laisser commencer cette émission. En quelques mots, la biodiversité sur le Ventoux, c'est une richesse très importante. C'est vrai que le Ventoux, tout le monde le connaît. Il est plus connu d'ailleurs par le Tour de France finalement que par sa richesse biologique. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des milliers d'espèces présente de faune, de flore, et ça dû à la spécificité finalement un peu du massif qui par ses pentes, une pente douce au sud, une pente abrupte au nord, son altitude aussi, on passe aux alentours de Carpentras de 20 mètres d'altitude après à plus de 1900, fait que du coup sur tout l'étage finalement altitudinal, on va retrouver des étages de végétation différentes. Et donc on va passer par exemple de l'étage méditerranéen à supraméditerranéen, puis montagnard. Et puis ensuite, on va avoir l'étage du pin croché, qui est l'étage subalpin, pour avoir après finalement les éboulis sommitaux, c'est-à-dire ceux qu'on connaît finalement le plus, voilà, les pierriers, où il y a de la flore rare et protégée qui va se développer. Et c'est l'étage pseudo-alpin.
Alors, voilà. Tous ces étages, si tu permets, une petite question à Anthony, tous ces étages, c'est l'homme qui les a façonnés pour une partie ?
Tout à fait.
Le climat aussi, je suppose.
Il y a le climat, il y a, comme j'ai dit, le côté biogéographique, et puis il y a l'homme, puisqu'il a été présent durant plusieurs siècles autour du massif, par du pastoralisme, par du déboisement aussi. Il y a eu des opérations de restauration des terrains de montagne, avec donc du reboisement qui s'est fait autour du Ventoux pour reconquérir un peu les espaces forestiers. Et donc, finalement, la biodiversité, elle va s'adapter aussi à tout ça. Il y a des introductions aussi d'espèces qui ont été faites au cours du XXe siècle. Et puis finalement, voilà, cette biodiversité, elle va être le fruit de l'interaction de l'homme, de l'évolution naturelle aussi des milieux, et puis surtout voilà, du climat si particulier du Ventoux.
Ça n'a pas toujours été boisé le Ventoux, en fin de compte, ou pas, au travers des siècles. Est-ce que c'est toujours un massif qui a été boisé ou pas vraiment, et malgré que l'homme l'ait façonné ou pas ?
Alors, déjà, il y a plusieurs millions d'années, il faut savoir que le Ventoux était une île. La mer Méditerranée remontait dans la plaine du Comtat,
oui.
Et on était sur un climat tropical. Et donc le Momentou était complètement différent. Il y avait des espèces marines aussi qui étaient aux alentours de l'arc ontadien. Et puis l'évolution des millénaires faisant, forcément le climat a changé, la végétation a changé. Et puis l'impact de l'homme fait aussi qu'il y a tantôt eu des déboisements, tantôt du déboisement aussi. Et puis là, donc plus récemment au 19e siècle, suite à de nombreuses coupes, notamment dû aux besoins en bois des chantiers navals de Toulon, il y avait des déboisements qui étaient faits, qui causaient des problèmes d'érosion aussi, puisque les villages alentours subissaient des risques naturels à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des grandes opérations de reboisement qu'on a appelées restauration des terres de montagne, RTM. C'est pour ça que l'État aussi a décidé, dans une situation d'urgence, de racheter des terres aux communes, ce qui a créé les forêts domaniales d'aujourd'hui. Oui. Et puis il y a des opérations de plantation qui ont été faites. Alors sur la commune de Bédouin, par exemple, c'est resté communal et c'est les habitants qui ont participé donc aux opérations de reboisement. Et finalement, petit à petit, la forêt a retrouvé son espace et la biodiversité aussi.
Anne ?
Ça veut dire que c'est des paramètres qu'il va falloir prendre en compte, en tout cas, par rapport au futur parc.
Tout à fait.
C'est ça qui est important de relier maintenant.
Bien sûr. Aujourd'hui, on a, donc, comme je disais, la chance d'avoir un patrimoine naturel formidable, avec des milliers d'espèces, de faune, de flore différentes, des milieux naturels aussi, des éboulis, des forêts, des milieux rupestres, c'est-à-dire des falaises. On a des milieux humides aussi, des mares temporaires, par exemple, des prairies de fauche. On a des milieux agricoles aussi qui sont porteurs de biodiversité, puisqu'on a la chance autour du Ventoux d'avoir plutôt des pratiques extensives avec une mosaïque de milieux qui va favoriser justement des habitats, c'est-à-dire des lieux de vie pour les espèces, que ce soit par exemple sur les haies qu'on peut retrouver en bordure de champs, sur des talus où on va retrouver par exemple beaucoup d'espèces d'insectes, de flore aussi qui vont pouvoir se développer. Et tout ça fait que ce patrimoine riche au sein du parc, dans le cadre de ce projet territoire, il est nécessaire de pouvoir le maintenir, le valoriser, pour justement le transmettre aux générations futures. Et pour cela, la charte du parc elle propose différents axes en termes de patrimoine naturel. Le premier étant l'amélioration de la connaissance, puisqu'on peut protéger et conserver que ce qu'on ne connaît bien. Donc il y a des zones d'ombre, c'est-à-dire que au niveau naturaliste, souvent on va se concentrer sur les mêmes espaces et les observateurs amateurs vont aller préférer aller voir telle ou telle espèce, donc ils vont forcément aux endroits où ils savent, où ils peuvent en trouver. Par contre, il y a des endroits qui sont méconnus, ce qu'on appelle les zones d'ombre. Et donc il va falloir essayer de lever le voile justement sur ces endroits-là pour savoir la biodiversité qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est tout ce qui va être amélioration des connaissances. On va essayer de faire participer aussi le public, la population, avec les sciences participatives.
Mais j'allais vous demander par quels moyens on va permettre justement au public de repérer les différentes espèces autres que celles qui sont connues.
Souvent, il y a un outil qui est utilisé, c'est les atlas de la biodiversité communale, par exemple, où il y a une commune, si elle est volontaire, peut organiser avec le parc des sessions d'inventaire naturaliste où on fait participer la population et pendant 24 heures ou voire quelques jours, on met tous les efforts concentrés sur certains secteurs qu'on ne connaît pas de la commune pour justement, à partir d'experts, comme Guillaume, par exemple, son bureau d'études, qui peuvent venir et accompagner la population pour faire découvrir la biodiversité qu'il y a. Et puis à partir de là, on va mieux connaître la biodiversité et puis on va pouvoir du coup mieux la prendre en compte dans les aménagements, dans les projets communaux, etc. Alors ça, c'est un exemple. Ensuite, il y a aussi dans la charte du parc la volonté de pouvoir protéger et gérer les espaces remarquables. On a par exemple des sites Natura 2000 sur le Mont Ventoux, les Gorges de l'Anesque, la vallée du Toulourenc. Il y a aussi des espaces naturels sensibles, comme les collines du lac du Paty. Plus récemment, il devrait y avoir aussi la labellisation en espace naturel sensible du lac des Salettes.
un bon moment.
À Montmorant, mmh. voilà. Je ne vais pas tous les citer, mais ce sont des espaces aussi de biodiversité qui accueillent du public. Et là aussi, l'idée, c'est de pouvoir concilier les deux. C'est-à-dire que ce public-là puisse être au courant de la biodiversité qu'il peut rencontrer, mieux être sensibilisé à sa préservation et pouvoir avoir justement des pratiques favorables. C'est-à-dire pouvoir découvrir, faire des de nature, aussi des loisirs, c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, en âme et conscience des potentiels impacts qu'on peut avoir pour essayer justement de les limiter et pouvoir cohabiter.
Alors justement, le terme cohabitation, je voulais l'employer. Bon, de tout temps, l'homme a dû cohabiter. Alors à une époque, c'était peut-être plus avec les animaux qu'il devait cohabiter, même si toujours ça ne vit plus le cas, parce qu'il y a le loup, entre autres, il y a toujours une cohabitation. Mais là, maintenant, la cohabitation se fait de l'homme à l'homme, entre celui qui entretient les terres, le territoire, et le tourisme, parce qu'on vient de l'aborder un petit peu, ce côté touristique qui est très très important dans les activités de pleine nature. Alors comment faire justement pour arriver à ce que tout le monde puisse préserver? Et bon, vous avez commencé à nous donner un petit peu quelques pistes, mais est-ce qu'on pourrait en avoir un petit peu plus?
Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, non. Et il faut arriver à concilier biodiversité et présence de l'homme, mais il faut aussi arriver à concilier toutes les présences de l'homme différentes. Et ça, en général, c'est le multi-usage, la multifonctionnalité aussi des espaces, qu'on parle souvent en forêt, et il faut arriver à concilier le randonneur avec le vététiste, le chasseur, le pêcheur, la personne qui aime aussi balader en moto pour aller par exemple au sommet du Mont Ventoux. Et ça, c'est pas toujours évident. Et la démarche d'un parc naturel régional, c'est bien entendu d'essayer de faire cohabiter tous ces gens-là. Et j'ai envie de dire, il faut un peu de tout. Pour tout. C'est-à-dire que de la même manière que la biodiversité, on va avoir besoin d'une mosaïque de milieux, c'est-à-dire des milieux différents pour arriver à avoir cette biodiversité-là, et bien là, on peut essayer aussi d'avoir de la randonnée, des VTT, de la chasse, etc. Mais si tout le monde arrive justement à se parler, à discuter et à essayer d'avoir des projets communs, on peut y arriver. Et ça, c'est aussi l'idée du parc naturel régional, d'être médiateur finalement dans tous
alors,
ces pratiques.
Justement, je voulais m'adresser à monsieur le maire de Ville-sur-Ozon. La cohabitation, on vient d'aborder le problème de la cohabitation, c'est un sujet aussi pour vous, avec vos concitoyens, comment cohabiter, comment faire. Est-ce que l'apport justement de la technicité et du futur parc, est-ce que c'est quelque chose justement pour un maire qui a de l'importance, parce que vous êtes en plein dans le parc, Ville-sur-Ozon?
Oui. On espère, normalement, ce sera au mois de juillet, qu'on va prendre entre juillet et novembre, qui va avoir la décision qui sera prise dans les différents conseils municipaux. On est engagé depuis le début pour agir dans ce futur parc. Donc, oui.
Quel apport, justement, pour une mairie?
Un soutien technique, parce qu'au niveau du syndicat mixte, il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'occupent de tout ce qui est nature, de tout ce qui est gestion touristique aussi, hein, parce qu'on compte là-dessus. Il y a le développement du futur, de l'espace, pas du futur, il existe depuis un an, de l'espace VTT Ventoux. C'est une orientation qui a été prise par le syndicat pour que développer cette activité pleine nature hors saison, hein, c'est l'espace VTT.
Oui, on en parlera tout à l'heure avec le Miss Colin.
Donc voilà, tout c'est. Puis il y a aussi au niveau du patrimoine naturel une aide pour, dont on se sert depuis des années, même s'il n'y a pas encore le parc naturel, dont on se sert depuis des années pour les divers projets que l'on met en place sur nos communes.
Tu voulais une question peut-être, Anne, non? Alors je continue sur le problème de cohabitation. Vous, en tant que maire, déjà, par rapport aux usagers, le respect de la biodiversité, comment vous faites dans les discussions de tous les jours? Parce que pour arriver justement à faire cohabiter toutes ces personnes-là, ceux qui veulent faire de la moto, ceux qui veulent faire du vélo, vous êtes maire, vous êtes l'élu de la commune. Comment est-ce que vous arrivez un petit peu à mettre tout le monde autour de la table et à s'entendre sur ces sujets-là qui, je suppose, arrivent régulièrement chez vous?
Mais c'est de grosses discussions, voilà. On essaye de prendre tous les paramètres de chacun.
Parce que vous, le tourisme aussi, c'est important dans votre commune.
Oui, le tourisme, c'est important, mais le tourisme, il y a la chasse, est importante aussi. Hein. Nous, c'est un territoire de chasseurs et la chasse, ça fait partie de notre patrimoine aussi. Hein. Voilà, la chasse, l'agriculture, tout ce qui est, il y a le tourisme, mais pas que le tourisme. Donc, il faut que tout le monde arrive à vivre ensemble.
Oui.
Voilà, le tourisme, c'est un plus pour nous. C'est vrai que c'est un plus. Il faut qu'on accueille le tourisme le mieux possible. Mais nos villages, il faut qu'ils vivent toute l'année. Il faut qu'on garde notre esprit, nos esprits villageois, de village, voilà. Et que, donc, les villages ont des commerces qui vivent toute l'année. On a cette chance, nous, bon, à Ville-sur-Ozon, on a cette chance d'avoir des commerces qui animent toute l'année notre beau village. Et le tourisme est là pour apporter un plus. Et on a des campings.
Tout en conciliant, Anthony, justement, la biodiversité. C'est là, voilà, tout est là, en fin de compte, d'arriver à ce que tout le monde puisse vivre sur ce beau territoire, puisse s'entendre et puisse respecter cette belle biodiversité.
Exactement. Par exemple, Lise nous présentera tout à l'heure, et M. Rouet l'a évoqué, l'espace VTT Ventoux. C'est un exemple d'un projet de développement, finalement, d'activités de pleine nature, qui, parce qu'il est aussi mené par un parc naturel régional avec tous ses partenaires, se doit de prendre en compte les richesses du massif et de proposer une activité qui soit en adéquation finalement avec le respect des patrimoines naturels et de cette biodiversité-là.
Justement, alors Lise Collin, le développement des activités de pleine nature, c'est quelque chose qui se développe depuis plusieurs années, on en entend parler régulièrement, justement par cet apport de touristes, c'est un département qui est très touristique, et tant mieux. Alors justement, ce projet, Anthony vient d'en parler un petit peu, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu la genèse de ce projet, à partir de quand, quelles sont les discussions qui ont été engagées et qui a eu l'idée de ce projet?
Alors effectivement, ça fait à peu près 3-4 ans déjà qu'on avait envie d'amorcer quelque chose sur le VTT. Ce qui a un petit peu impulsé les choses, déjà, c'est la mise en œuvre de la grande traversée VTT au niveau du département de Vaucluse, par le département, pardon. Et on avait un manque d'offres locales, de boucles pour les pratiquants qui viennent en séjour ici, ou même pour les locaux. C'est-à-dire qu'il y avait une pratique du VTT par des gens du cru, mais quand on vient de l'extérieur, c'est pas forcément évident de se repérer sur le massif du Ventoux qui peut un petit peu faire peur. Donc ce manque d'équipement VTT, de structuration et la nécessité de bien faire cohabiter tous les usages nous a poussé effectivement à porter ce projet. On avait déjà travaillé sur le vélo de route et le vélo tout chemin. Là, la volonté était de passer sur cette pratique plus d'activité de pleine nature. Il existait déjà des choses, donc je dirais que ça remontait même à plus que 3-4 ans, puisque à la base, c'est à l'initiative du centre d'hébergement Les Florents sur Bédouin avec d'autres partenaires qui avaient été mis en place une offre de 4 parcours VTT. Donc l'idée c'était de reprendre cette offre existante et puis de l'enrichir avec de nouveaux parcours. Et de là, on a décidé d'aller chercher une labellisation en espace VTT FFC. Donc c'est la Fédération Française de Cyclisme qui présente un cahier des charges. Il faut un minimum de 100 km de circuits balisés, fournir des services, des points d'accueil VTT, une carte, des panneaux, donc de la signatique sur site. Et pour nous, c'était un niveau de qualité qu'on voulait atteindre. Et donc, on l'a obtenu, ce label, il y a un an maintenant. Et donc, ce matin même, on a eu une réunion pour faire un point après un an de création de l'espace VTT qui, en fait, rassemble tous les parcours allant du nord du Ventoux au sud du Ventoux, mais aussi sur le plateau de Sceaux et même jusqu'à Pernes-les-Fontaines.
Alors le vélo, c'est vrai que c'est très très important sur notre département. Hein. Lise, je pense que vous en êtes convaincue dans tout ce que vous réalisez. Alors justement, là, peut-être Anthony ou Lise, la prise en compte dans le parc naturel régional justement de cet ensemble, de ces activités de pleine nature, comment est-ce qu'on...
Alors, je veux bien poursuivre. Effectivement, il y a tout un volet dédié au développement de l'offre d'activités pleine nature dans la charte du parc du Ventoux qui vise à accompagner, à structurer toutes ces activités. Elles sont nombreuses. On a parlé de VTT, donc effectivement, on est déjà engagé sur cette action. On veut aussi travailler sur des activités émergentes comme le trail. Donc, c'est de la course en montagne puisqu'on voit de plus en plus de personnes qui pratiquent cette activité. Là aussi, on pense que c'est important de la structurer en proposant tout simplement des parcours balisés, identifiés, puisque ça va nous permettre en fait d'aller développer les parcours là où on le souhaite, d'éviter de surcharger les zones déjà très fréquentées. Donc ça peut permettre de bien diffuser l'offre sur le territoire, c'est ce qui est intéressant, travailler sur le hors-saison, mais aussi bien répartir les touristes dans l'espace. Ça, c'est un élément important. Donc cet avant-projet de charte, il vise sur le volet APN à bien accompagner tous les projets émergents, que le parc soit lui-même porteur de projet, mais ça ne sera pas le seul. Donc c'est accompagner ces porteurs de projet autres que le parc. Ça peut être sur l'escalade aussi. Il y a un projet actuellement, on va en parler je crois, sur la commune de Ville-sur-Ozon, sur la spéléologie, sur le vol libre, autant de thématiques et de pratiques qui peuvent être suivies. Après, il y a aussi un rôle de sensibilisation des publics. Là aussi, le futur parc a ciblé des actions par des campagnes de communication, par de l'information sur site. Là aussi, c'est bien important de définir des points d'accueil où le pratiquant, qu'il soit touriste ou usager local, puisse retrouver toute l'information sur les endroits où il a le droit d'aller ou de ne pas aller. En VTT, par exemple, on ne peut pas aller sur la partie au niveau du sommet. Il y a un arrêté préfectoral de protection de biotope en lien avec la réserve de biosphère intégrale. Et donc, seul le sentier des crêtes entre le sommet et Chalet-Reynard peut être emprunté à VTT. Donc, le panneau sur site, qui n'est pas encore en place, mais qui devrait l'être l'année prochaine, permettra de préciser effectivement les zones autorisées ou pas autorisées. Donc, ce travail de sensibilisation des publics sera une des grosses missions du parc aussi. Et après, il y a tout le travail sur l'accompagnement des organisateurs de manifestations sportives, où là aussi, le syndicat mixte et le futur parc auront encore un rôle à jouer. Dans tout ce qui est gestion des déchets ou choix des parcours. Les thématiques, elles sont très larges, mais d'arriver à mieux suivre ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes sur le Ventoux. Les communes sont parfois en demande d'un appui sur ça, oui.
Alors justement, vous parlez des communes, et je vais m'adresser une nouvelle fois à Frédéric Rouet, maire de Ville-sur-Ozon. Vous avez parlé, Lise, du travail sur le hors-saison. Alors c'est vrai que la saison touristique, là, démarre. Hein. Le tourisme, il y a le tourisme de masse en cette période, mais le hors-saison est important aussi pour les communes. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que tout se concentre sur sur les mois d'été. Mais après, justement, comment faire pour attirer toujours ces touristes et les maintenir sur une commune? Je pense que, monsieur le maire, vous, c'est quelque chose que vous souhaitez, maintenir le tourisme un peu, le touriste toute l'année.
Oui. Il est certain que juillet-août, c'était le cas avant où il y avait vraiment un tourisme de masse, mais maintenant, c'est vrai que si on a une très belle hors-saison, que ce soit mai, à partir d'avril, mai, juin, et surtout septembre, octobre, avec des produits aussi à découvrir, hein, parce qu'il y a les produits agricoles qui sont les raisins au mois de septembre, les cerises, il y a toute une production à découvrir, et donc si on peut proposer des activités à des touristes qui viennent et dans nos campings, parce que nous on a un camping à Ville-sur-Ozon, deux campings à Ville-sur-Ozon, il faut qu'ils viennent en vacances, mais qu'ils aient quelque chose à faire et à découvrir la nature en même temps.
L'hébergement, derrière, il y a tous ces sports de loisirs dont vient parler Lise Collin. Il y a aussi l'hébergement qui est important pour maintenir aussi les touristes sur une période plus ou moins longue. Donc tout ça, effectivement, tout est imbriqué, tout s'imbrique avec le PNR, le futur PNR qui est dessus et qui va pouvoir être, non pas le côté, comme malheureusement on a pu l'entendre dans les nombreux débats, oui, on ne va rien pouvoir faire, tout sera interdit, ce n'est pas le cas du tout, au contraire.
Oui, effectivement, j'ai déjà eu une question du type, est-ce qu'on pourra faire du VTT dans le massif du Ventoux? Oui, le syndicat mixte, c'est donc le futur parc, est porteur de l'espace VTT FFC Ventoux. Donc, la seule chose qu'on souhaite, c'est structurer les activités pour qu'elles soient bien pratiquées et peu impactantes. Donc, on privilégie les chemins existants, on évite l'ouverture de nouvelles traces, de nouveaux sentiers, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Donc, c'est déjà utiliser tout ce qui existe, c'est une incroyable richesse. Et on va préconiser certains usages plutôt que d'autres, et les usages respectueux effectivement des autres usagers, de la biodiversité.
Anne, une question ?
Non, mais je pense que ce que Lise vient de dire, c'est le plus important, hein, parce que pratiquer des activités sportives, il n'y a pas de problème. On risque même d'augmenter l'offre, donc d'augmenter la fréquentation. Et je pense que toute la partie respect avec la biodiversité et des humains entre eux, le respect de la faune, etc., ça va demander quand même beaucoup de vigilance, parce que, je veux dire, il faut surveiller ça. Les gens, on sait qu'ils ne sont pas spécialement disciplinés. On sait bien qu'à l'issue d'une manifestation sportive, on a des tonnes de déchets à éliminer. Donc si des gens viennent encore en plus, il va falloir le gérer aussi.
Ça fait partie des messages qu'on essaie de diffuser auprès des organisateurs, notamment. On leur dit de bien veiller à repasser après leur manifestation. Il y a de gros progrès quand même qui ont été faits. Les manifestations, de plus en plus, quand même, prennent contact avec nous, enfin les organisateurs de manifestations. Le syndicat mixte a conçu un guide de l'organisateur d'événements sportifs qui est diffusé sur le site internet smaemv.fr. On va vers du mieux. Après, il y a encore effectivement des manifestations non déclarées, non connues, et c'est là où on a moins de prise, mais c'est tout le travail du futur parc et on a des années pour mettre tout ça en place. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais ce type de structure peut vraiment aider, je pense, en termes de communication et de gagner en efficacité là-dessus.
Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas trop aujourd'hui. Donc, effectivement, on peut espérer que ça cadre bien le.
Oui, tout à fait. Ouais. Je voudrais juste revenir sur le trail. Effectivement, ça ne se pratiquait pas tellement sur le Ventoux, le trail. C'est nouveau, c'est quelque chose. Parce que dans d'autres régions, effectivement, le trail est très à la mode.
Alors,
là, c'est un petit peu un début.
Visiblement, ça se pratiquait déjà, mais on voit un essor de la pratique. De toute façon, sur le plan national aussi, de plus en plus de gens, c'était beaucoup des hommes, mais les femmes se mettent aussi à la course à pied. Donc pareil, là, sur Bédouin, les parcours existants, parce qu'il y a des parcours sur Bédouin, on ne le sait pas forcément, ont été créés donc, par les Florents en même temps que les parcours VTT, donc aux alentours de 2013. Et là, on travaille justement à mieux valoriser cette offre. Donc, on va s'y employer en ayant un support de promotion, une carte, déjà papier qui sera diffusée dans les offices de tourisme, et puis de pouvoir avoir l'information sur Internet. L'idée, c'est pas de mailler tout le Ventoux de parcours divers et variés, VTT, trail, etc., mais d'avoir des offres bien ciblées, les bonnes offres aux bons endroits. Donc, sur le trail, effectivement, il y a toute cette offre côté Bédouin, côté Sud qui existe, et on va peut-être y réfléchir pour développer un ou deux parcours, soit sur le Mont-Serein ou autour de Mormoiron. Tout ça, c'est en cours de réflexion. C'est même au début de la réflexion. Je veux pas trop m'avancer sur les choix qui seront faits, mais on est à l'écoute des partenaires. S'il y a des propositions, elles sont les bienvenues.
Merci, Discola. On va se faire une petite pause musicale et après, on reviendra, Anne, avec nos invités, sur la démarche exemplaire de Ville-sur-Ozon lors de la création du site naturel d'escalade. Et on aura nos deux intervenants qui vont nous parler de ce superbe projet. On se fait une petite pause musicale. On se retrouve juste après.
Breathe it in, don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Don't go running, don't go running, don't
écoutez Les Pieds dans le Parc, une émission réalisée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et le SMAEB, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.
Voilà, nous sommes sur la deuxième partie de cette émission avec nos invités toujours sur le plateau. Anthony Roux, responsable de l'unité patrimoine naturel, chargé de mission biodiversité et espace naturel au syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux. Lise Collin, chargée de mission écotourisme également au syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux. Monsieur Frédéric Rouet, maire de Ville-sur-Ozon, vice-président de communauté de communes, Ventoux Sud. Et également Guillaume Folly, ingénieur écologue au bureau d'études Odyssée Environnement Asso. Et je te laisse la parole, Anne, pour redémarrer cette deuxième partie.
Alors, on avait à peine abordé donc, la démarche exemplaire de Ville-sur-Ozon lors de la création du site naturel d'escalade. C'est un projet donc, sur lequel on va peut-être demander à Frédéric Rouet, donc maire de Ville-sur-Ozon, de nous expliquer un petit peu la genèse du projet.
Alors, c'est un projet qui a débuté en 2017. C'est une combe, c'est la combe de l'Ermitage qui est à l'est du village, une partie où débute la montagne, et c'est à 1 km du village. C'est une très jolie combe vraiment qui est vraiment des très beaux rochers. Et donc on a été alerté par la FFME, la Fédération Française de Montagne et d'Escalade, en nous disant qu'il y avait peut-être un beau site d'escalade à réaliser avec entre 80 et 150 voies d'escalade possibles avec 6 rochers qu'il était possible de grimper. Donc, ils nous ont demandé s'ils pouvaient équiper. Alors, on a préféré dire on va essayer de faire un projet exemplaire. Donc, on va faire tout pour qu'il y ait une étude, pour voir les impacts qu'il peut y avoir sur la nature par rapport à ce site. Donc, grâce au SMAEV et au syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux et surtout au futur parc, on a accès au programme LEADER. Donc on a été éligible et ça nous a été accordé. Et donc c'est les subventions européennes, régionales, départementales. Oui, oui. Donc, on a décidé de monter ce projet. Alors, dans ce projet, il y avait 80 voies d'escalade avec un site école. C'est sur 6 rochers tout au long de la combe. La mise en place de toilettes sèches, des tables, des bancs, de la signalétique, des barrières. Et surtout, le gros point, une étude environnementale complète sur 4 saisons. Il était clair qu'on allait faire en premier cette étude environnementale, et selon les résultats on pourrait faire on verrait pour la poursuite du projet pour accommoder en fonction des résultats. On a mis en place un comité de pilotage avec différents acteurs du territoire et de la forêt. Il y avait l'ONF, le syndicat du futur parc avec monsieur Baptiste Montesino qui s'occupe de Natura 2000. Comme on n'est pas très loin du site Natura 2000 des Gorges Lanesques, donc il fallait tout prendre en compte. Des naturalistes, il y avait le comité communal de feux de forêt, et pas mal d'élus.
Et à quel moment, je vous coupe, excusez-moi, intervient le cabinet d'études, justement. Alors, monsieur Guillaume Folly, qui est aujourd'hui avec nous sur le plateau, il est ingénieur écologue. Déjà, il va nous expliquer peut-être ce que c'est un petit peu ingénieur écologue. Je vous coupe 2 secondes, monsieur le maire, mais ça va dans le sens. Bureau d'études Odyssée Environnement Asso. Donc, déjà, me présenter peut-être ce qu'est un ingénieur écologue et comment vous êtes intervenu. Dans cette étude, comment ça se passe une étude justement quand vous avez une demande comme celle de monsieur le maire aujourd'hui?
Très bien. Donc un ingénieur écologue, en fait, c'est des personnes qui étudient la biodiversité au sens large. Donc il y a plusieurs spécialités. Écologue, ça regroupe un peu tous les domaines de spécialité de ces ingénieurs-là. Donc il y a des spécialistes de chauves-souris, des spécialistes d'oiseaux, etc., des botanistes. Et donc voilà, le mot écologue, c'est vraiment pour faire allusion à l'écologie et plutôt aux écosystèmes et dans tous ces petits différents groupes qui interagissent ensemble et qui vont faire la biodiversité et le réseau écologique au global. Donc nous, on a été missionné en 2018, comme le disait Monsieur Rouet, sur une étude écologique au sens large, donc pour étudier à la fois la flore mais aussi la faune sur le projet. Donc en amont de tout aménagement, c'est vraiment une démarche qui se fait dans le but d'essayer d'éviter limiter, réduire et éventuellement compenser des impacts futurs d'un projet. Donc, on a fait 38 journées d'inventaire écologique, donc ce qui représente quand même pas mal de sorties de terrain. Et la spécificité du site, donc, c'était étudier des falaises hein, avec un accès de par deux départementales, au nord et au sud, pour essayer de voir si, si le projet d'ouverture du site à l'escalade était compatible avec la biodiversité de la combe et du milieu naturel au sens large.
Alors, cette étude, en parallèle, je vous coupe deux secondes, il y a quand même une autre étude, alors je ne sais pas comment, si on peut pas l'appeler étude, pour savoir lequel public, est, pour ce projet, vous avez quand même testé un petit peu le public, comment est-ce que vous avez fait pour dire, tiens, il y a un intéressement, il y a un intérêt à créer ce genre de choses, il y a une demande, on sait qu'on aura du public. Ça, c'est en parallèle, ça, ce n'est pas la même chose que l'étude environnementale. Comment est-ce que vous avez pu déterminer les publics qui pourraient éventuellement être intéressés, s'il y en avait ?
Déjà, il y a la fédération départementale d'escalade qui nous a dit que les rochers...
Déjà, ils étaient demandeurs.
Oui, ils étaient demandeurs. Ouais. Donc, puis il y avait ce rocher école. Il y a un rocher école qui est en haut de la combe.
D'accord.
C'est ce qui est recherché hein, le plus. Lise pourra vous en parler aussi par rapport au VTT. Des parcours familiaux, c'est ce qui attire le plus. Il faut qu'il y ait des parcours ou des voies qui soient un peu plus techniques, mais quand les enfants peuvent découvrir l'escalade en toute sécurité, c'est que mieux. Donc l'école du village est intéressée aussi. Hein, voilà. Donc c'est ça aussi qui. Chaque année, ils vont faire des sorties d'escalade un peu sur les différents sites. Donc là, ils seront sur place. Il y aura la possibilité d'avoir des accompagnateurs qui pourront aussi venir sur le site. Donc on a vraiment eu un attrait de pas mal d'acteurs et surtout les commerçants du village étaient favorables.
Donc vous avez missionné après Monsieur Rouet qui nous expliquait un petit peu donc tout le déroulement. Je vous ai coupé, mais c'était pour savoir un petit peu le début quand même de l'historique. Donc je vous laisse maintenant poursuivre dans votre mission.
Je vais rentrer un peu dans le détail. Donc clairement, l'étude elle a commencé fin février, donc notamment parce que grâce à l'intervention d'un naturaliste photographe local, on suspectait que la combe était occupée par un grand-duc d'Europe, un couple de grands-ducs. Donc c'est vrai que l'étude elle a commencé très tôt, à la fin de l'hiver, pour faire des nocturnes, parce que c'est la période de nidification de cette espèce qu'il ne faut pas louper au départ. Et donc dès les premières sorties, effectivement, sur le sud de la falaise, il y a eu un couple de hiboux grand-ducs qui a été découvert. Donc, et puis par la suite, après, il y a eu tout un système qui a été mis en place pour enregistrer les chauves-souris. Donc les résultats sont assez probants parce que dans cette combe, il y a eu plus de 20 espèces de chauves-souris. Donc identifié avec une activité significative, une activité de chasse. Et donc pour voir si le projet était compatible notamment avec la préservation de la biodiversité, il a fallu aller un peu plus loin dans le détail de savoir quelle falaise allait être susceptible d'accueillir des gîtes à chauves-souris, donc pour des espèces notamment cavernicoles ou fissuricoles qui vont vivre dans les fissures des rochers. Et donc là, il y a eu un travail notamment avec la pose de deux enregistreurs, donc un en bas des falaises et un en haut, pour essayer de recouper en fonction de l'horaire où on captait les espèces, de recouper s'il y avait des gîtes, notamment dans chaque falaise. Et il y a eu un travail complémentaire avec des caméras thermiques également qui ont été faits pour essayer de voir si les fissures, les cavités étaient assez profondes et favorable finalement à l'accueil des chauves-souris. Donc tout au bout des inventaires écologiques, il en est ressorti que il y avait toute la partie sud donc de la combe qui comportait des enjeux forts à très forts. Donc si on cumulait groupe par groupe les espèces qui avaient été inventoriées et puis l'utilisation de ces falaises par les espèces. Et après, on est allé au-delà parce qu'on parle de falaises, notamment avec l'activité escalade, ça va de soi. Mais il y avait tout l'accès et puis les aménagements annexes, comme disait Monsieur Rouet tout à l'heure, d'accueil du public, les tables de pique-nique ou les toilettes sèches, et notamment l'accès de savoir si on venait par le sud ou par le nord. Donc tout ça a fait que on a posé les enjeux du site. Donc et puis après, on a essayé de voir les différentes variantes, d'analyser les variantes pour voir et sélectionner la variante du moindre impact environnemental, parce que c'est ça le but, c'est de voilà d'essayer de concilier le projet avec la biodiversité. Et on a retenu finalement la variante finale, c'est l'utilisation uniquement de deux falaises sur le nord de la Combe, sur les cinq présentes au total, avec des mesures d'évitement et de réduction, notamment pour l'accès. On a préféré choisir un accès depuis la départementale 1 par le nord, pour laisser vraiment donc une zone de quiétude pour le couple du Hibou Grand-Duc et puis pour les chauves-souris qui gîtent dans les falaises 1, 2 et 3 du sud de...
Avec une pratique toute l'année ? Vous avez retenu la possibilité que la pratique de l'escalade soit réalisée toute l'année ?
Alors c'est modelé justement, ouais. Donc il y a une falaise qui est une petite falaise qui fait un îlot central au milieu de la Combe et qui est utilisée par le couple de Grand-Duc d'Europe en hiver, ouais. Pour s'ensoleiller et rester au chaud, et en fait donc on va utiliser que la face nord et uniquement l'été.
Que l'été, oui. Voilà. Et puis la face nord, l'hiver est impraticable, donc ça tombait. Voilà, ça, il n'y aura pas d'impact sur l'escalade. C'est les rochers exposés au sud qui seront où ils pourront grimper l'hiver, donc ceux-là ne sont pas impactés par le Grand-Duc.
Donc en fin de compte, je vous redonne la parole, Guillaume, deux secondes, juste après. Donc en fin de compte, après vous faites part de cette étude à la Fédération de l'escalade, vous leur donnez un cahier via des contraintes en leur disant voilà, là, c'est possible, là, c'est pas beau, comment ça.
On a fait un comité de pilotage au mois de novembre avec le résultat de l'étude. On est allé voir sur place, et en fait, avec la fédération, avec Pierre Duret avec qui on s'est rendu sur place, on a vu les rochers, on a décalé vraiment le projet sur le nord de la Combe. Donc voilà, on s'est tous entendus, on s'est pour éviter d'embêter les chauves-souris et surtout le Hibou Grand-Duc d'aller sur son territoire. Voilà, on ne voulait pas aller sur son territoire.
Merci, je vous laisse poursuivre peut-être.
Voilà, pour compléter, si on veut aller plus loin, donc dans les mesures qui ont été mises en place pour éviter et réduire donc les impacts sur la biodiversité, comme on le disait, donc c'est un choix de variante, uniquement les falaises qui avaient le moins d'enjeux, parce que par exemple sur les falaises du nord de la Combe, il y avait c'est des falaises un peu plus lisses, avec moins de fissures, moins de cavités, donc moins favorables aux gîtes de chauves-souris. Et on a vu de par l'expertise sur une année complète que c'est une zone où le couple de Hibou Grand-Duc vient très peu. Donc elle se contente de rester sur le sud de la Combe. Et une des mesures principales, notamment, ça concerne, parce qu'il y a deux phases dans un projet. Il y a la phase chantier où on va équiper les voies. Donc pour équiper les voies, donc c'est déjà c'est enlever la végétation sur les falaises, c'est purger les rochers, les petits bouts de rochers qui tiennent mal, c'est mettre en place les ancrages, etc., etc. Créer un sentier, dégager le pied de falaise s'il y a de la végétation, etc. Donc ça peut être des travaux qui peuvent avoir un impact fort sur les espèces, notamment s'ils interviennent au printemps, en été, pendant qu'il y a la reproduction de la plupart des espèces. Donc c'est vrai que l'adaptation du planning de travaux, c'est la mesure phare pour intervenir à une période qui est assez courte. C'est septembre-octobre pour débuter et faire les travaux lourds. Et après, il y a toute une démarche, donc d'autres mesures d'évitement et de réduction, donc qui concernent tous les groupes faunistiques. Voilà.
Après, je veux rebondir un petit peu sur tout ce que vous êtes en train de dire depuis tout à l'heure, Anthony. C'est incontournable, Anthony, une étude comme celle-ci maintenant.
Mais on espère effectivement que ce soit de plus en plus incontournable. Il y a des réglementations qui les obligent. Alors là, dans le cas de Ville-sur-Ozon, c'est pas le cas. Pour autant, c'est nécessaire de pouvoir justement essayer de concilier des projets avec la prise en compte de la biodiversité.
Ce que vous dites, c'est important parce que Monsieur le Maire a été conscient de suite. Vous êtes en train de nous dire qu'il n'avait pas obligation finalement. Vous n'aviez pas obligation de faire cette étude, si je comprends bien, mais vous, c'est votre... Pour vous, ça paraît incontournable et important, mais est-ce que c'est...
On n'avait pas l'obligation, mais ouais. du moment où on était au courant qu'il y avait le Hibou Grand-Duc, on ne pouvait plus... on ne pouvait pas faire semblant de ne pas le savoir et de dire, voilà, ben, maintenant, si ça me va, c'est pas... Non, il y était. On était au courant. Il y a un naturaliste du village qui nous a alertés. Donc...
En ayant eu les fonds leaders, on a dit, tant qu'à faire, faisons un projet exemplaire et allons jusqu'au bout. Et même dans la... Guillaume Folly a parlé des chauves-souris, mais il y a d'autres animaux qui sont... Il y a l'hirondelle des rochers qui est sédentaire. Il y a la genette, qui est dans la combe. Donc voilà, il y a quand même un patrimoine, sans parler de la nivelle de Fabre qui est sur le secteur aussi. Donc il y a vraiment un patrimoine. C'est intéressant de connaître tout le patrimoine qu'on peut avoir sur sa commune. Donc voilà, il ne faut pas se voiler la face et de dire voilà.
C'est ce que je veux vous entendre dire. Votre sensibilité en tant qu'élu, c'était déjà de la connaissance du terrain, vous l'avez, et d'aller vers cette étude pour avoir même si elle n'était pas totalement obligatoire. Voilà, c'est ce que je vais vous entendre dire. Et Anthony, ce n'est pas effectivement totalement obligatoire, mais c'est vraiment très conseillé. Quoi.
Bien sûr. Et puis le parc naturel régional sera là aussi pour accompagner les porteurs de projets, que ce soit au niveau. Du soutien technique, essayer de trouver aussi des subventions pour pouvoir payer ce genre d'études. Là, il se trouve que dans le cas de Ville-sur-Ozon, c'est des fonds européens, leader, qui anime le syndicat mixte du Mont-Ventoux, qui a permis ça. Et puis c'est vrai qu'on est quand même dans une tendance où l'idée, c'est de généraliser ce type de process, puisque la biodiversité chute de manière globale. On parle d'érosion de la biodiversité, de sixième extinction de masse des espèces. Monsieur Rouet l'a bien dit, ces espèces-là font partie du patrimoine communal. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir protéger des églises, des cabanons, des lavoirs pour du patrimoine culturel, mais il y a aussi du patrimoine naturel qui existe, et quand il y a un couple de hiboux qui nichent dans une falaise de la commune, c'est aussi du patrimoine que la commune quelque part se doit aussi de préserver, et là c'est un bel exemple justement de conciliation, c'est-à-dire que ça n'a pas empêché le projet d'escalade de voir le jour, ça a simplement essayé de prendre en compte les spécificités, les enjeux pour adapter et pour essayer d'arriver finalement à avoir le projet comme il se doit.
Alors, Guillaume Folly, l'étude est rendue. Maintenant, nous en sommes où? Donc après que l'étude est rendue, la fin d'étude s'est terminée, maintenant ça a été rendu à la mairie. Mois de novembre. Et cela a démarré, c'est peut-être vous qui allez y répondre. À quel moment le site sera accessible?
Il y a quelques jours, il y a presque deux semaines, on a eu une réunion avec encore un comité, le comité de pilotage. On a eu le retour de l'Adréal, puisque c'est l'Adréal qui s'occupe de la... qui nous a dit si l'impact modéré qu'on avait choisi sur le site était suffisant. Donc ils ne nous ont pas imposé de dérogation. Et donc, comme Guillaume le disait, on va réaliser les travaux en accord avec la Fédération française d'escalade au mois de septembre, octobre. Donc il va y avoir de la purge de voies et il y aura entre 60 et 70 voies d'équipées.
Alors, votre travail s'arrête à quel moment finalement en tant que cabinet d'études, Guillaume Folly?
Donc il y a plusieurs aspects à ce travail. Donc là on était plutôt dans une partie amont, c'est-à-dire des études en amont des projets, justement pour poser les bases de l'environnement et mieux adapter le projet dans son environnement global. Mais après effectivement, là je pense que ça va être le cas sur le projet de Ville-sur-Ozon. On est de plus en plus missionné pour suivre les chantiers, donc notamment pour respecter les préconisations des études, pour voir qu'elles soient bien appliquées sur le terrain, parce que des études c'est la base, c'est important, mais la réalité des choses c'est d'être bon sur le terrain et de respecter vraiment les préconisations et la biodiversité une fois qu'on fait le projet. Et puis après ça va même au-delà, je pense que ce sera également le cas sur le projet de Ville-sur-Ozon sur le site d'escalade, c'est de dire voilà, grâce à l'étude on a posé les enjeux, on connaît les espèces, on a tout fait pour éviter les impacts, notamment au niveau du chantier, et maintenant on va regarder si les impacts résiduels qu'on avait imaginés à l'étude se vérifient sur le terrain lors de la phase d'utilisation du projet pendant plusieurs années. Donc ça s'appelle un suivi en exploitation, et donc là il va avoir pour pouvoir comparer avec l'état initial, donc avant projet, il doit avoir à peu près la même méthodologie mise en place, notamment pour les enregistrements de chauves-souris ou pour l'analyse de l'avifaune, et pour voir vraiment si les espèces sont revenues sur le site et si le projet il a bien pris en compte la biodiversité et le besoin des espèces.
Le besoin des espèces. Lise Collin, j'avais une petite question à vous poser. C'est une offre d'activité, c'est une nouvelle offre d'activité de sport en pleine nature, en plus de l'offre vélo. Est-ce qu'en fin de compte, il peut y avoir une passerelle ? Est-ce que ceux qui pratiquent le vélo pratiquent l'escalade ? Est-ce que vous avez un petit peu des retours là-dessus ou est-ce que c'est deux publics totalement différents ?
Bonne question. Honnêtement, j'ai pas de connaissances particulières là-dessus. Autant je sais que certains cyclistes routes font du VTT.
Oui, ça soit.
La randonnée pédestre, ça reste aussi une activité pratiquée par tous. Autant de l'escalade au vélo ou au VTT, je l'ignore. Je pense que c'est un public bien spécifique, le public de grimpeurs quand même, qui a pas forcément de passerelle. Après, c'est une pratique qui peut tendre à peut-être à s'ouvrir s'il y a justement des voies plus accessibles, plus faciles et si à destination des scolaires aussi, il y a des actions, ça peut effectivement ouvrir la pratique à d'autres publics. Mais on est plutôt sur, normalement, une pratique de niche avec des gens initiés.
Oui, c'est déjà, voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais enfin, au plus il y a d'offres, au mieux c'est, monsieur le maire. Ça permet oui, effectivement toujours voilà, d'attirer un peu plus de monde,
exactement,
de maintenir un petit peu plus de monde. Et éventuellement, des gens peuvent découvrir à un moment donné une autre activité et se dire, tiens, pourquoi pas.
Et puis découvrir la belle nature du Ventoux.
Ouais, voilà, puis voir le Ventoux et d'une autre manière,
d'une
comme
autre
le disait
manière,
tout à l'heure Anthony Roux, c'est plutôt que de le monter en moto, de redescendre et de ne pas avoir vu la nature beaucoup plus de près, d'être resté sur le bitume dans quelque sorte. Concernant le VTT, tout à l'heure, vous vouliez rajouter quelque chose, Lisa.
Oui, effectivement, je voulais parler de la philosophie du projet qui était effectivement de développer une pratique VTT plutôt de découverte. Le choix a été fait de développer ces parcours dits cross-country dans le jargon du VTTiste. Il y a aussi parfois sur des sites de stations de montagne des pratiques de VTT de descente, mais c'est pas le choix qui a été fait pour le Ventoux. On est bien dans une philosophie durable de découverte du territoire. Donc ça, je voulais effectivement le préciser. Et les développements à venir, puisqu'on envisage de finaliser la création de certains parcours, on est toujours dans cet état d'esprit. Et les partenaires aussi, Ego Bike, je ne l'ai pas cité, qui est notre club support, est vraiment dans cette optique de vélo de montagne, où on découvre et où ça se mérite quelque part.
Oui, tout à fait. Alors, je reviens deux secondes sur l'intérêt de réaliser des diagnostics en amont des projets. Bon, on l'a bien compris, hein, votre cabinet d'études, vous pouvez dire où il est situé, effectivement. Hein.
Donc, on est situé à Sceaux. Oui. On est une centaine de personnes au niveau national dans plusieurs agences. Et nous, on fait partie de l'agence de Sceaux. Donc, on est une équipe d'écologues avec des spécialistes un peu dans tous les domaines.
Tu pensais, Anne, que tu connaissais cette profession ?
Absolument pas.
Tu parles de l'autre.
Non, j'étais pas devant le micro, pardon. Non, je connaissais absolument pas le terme. Par contre, ça me paraît une évidence.
Oui, ça paraît évident.
Moi qui suis vraiment attachée aux animaux, ça me paraît une évidence de vérifier qui est-ce qui habite là avant d'envahir l'espace. Là, ça me paraît, mais alors, complètement évident.
Oui.
Et je dirais que ce couple de volatiles fait partie des habitants à recenser à Ville-sur-Ozon, hein, carrément.
Merci en tout cas. On va passer peut-être à un autre sujet. Non, on reste toujours dans notre sujet sur la biodiversité. Je voudrais revenir un petit peu vers monsieur le maire, donc monsieur Frédéric Rouet. Alors, vous êtes un petit peu une commune, je dirais pas pilote, parce que ça se fait. Il y a d'autres communes en France, ça. Mais dans le département, il n'y en a peut-être pas tant que cela. Qui ont choisi, vous allez nous en parler un petit peu, de diminuer la pollution visuelle de votre village. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus ?
Alors la pollution
lumineuse.
Bien que la pollution visuelle existe aussi.
C'est aussi les panneaux publicitaires qu'on peut.
Je pense que les maires aussi des fois ils commencent un petit peu aussi à faire un petit peu la guerre à ce genre de publicité.
Donc oui, alors depuis 2015 nous avons fait une enquête auprès des communes qui avaient déjà mis en place cette extinction des lumières la nuit. Donc on a fait presque 40, c'est des conseils municipaux des conseils municipaux qui s'en sont occupés. Ils ont fait l'enquête sur à peu près 40 communes et pour voir un peu les impacts que pouvait avoir l'extinction des lumières, tant au niveau sécurité, parce que c'est ça qui fait le plus peur très souvent
à la population.
À la population. Donc nous avons décidé en 2015 de faire un essai pendant une année,
oui,
de faire de l'extinction de lumière de minuit à 5 heures et de 1 heure à 6 heures l'été. Donc voilà. Donc ça fait au bout d'un an, on a décidé de garder, de continuer. Et ça fait la quatrième année. Et avec de vrais plus déjà au niveau économique.
Parce oui. Vous pouvez donner quelques chiffres. Tout à l'heure, vous nous avez donné avant l'émission. C'est quand même relativement important.
Bon, c'est dû à l'extinction des lumières, mais aussi on a changé certaines vieilles lampes au mercure qu'on a remplacées par des LED. Et en 2014, on était à 132 000 kW
pour une année. Oui. Et on est passé à 36 000 kilowatts pour l'année 2018. Voilà.
Ce qui fait une sacrée économie quand même. Alors justement, comment avez-vous fait pour cibler un petit peu les quartiers, les zones? Alors comme vous dites, ça n'a pas été quelque chose de facile, quelque chose qui pouvait peut-être... Est-ce que vous pensiez déjà que ce projet, à la base, il allait y avoir tant de réticences, ou est-ce que vous pensiez que ça allait passer vraiment, que vos concitoyens le comprennent de suite? Et ou est-ce que vous partiez du principe où vous saviez qu'il allait y avoir une certaine réticence par rapport justement à la peur, à l'insécurité? On est dans le noir,
oui,
pour
oui,
l'insécurité.
Oui, il y a eu des peurs. Hein. Bon, on a été là pour en parler, pour... c'est vrai que même la gendarmerie, hein, je suis allé voir la gendarmerie de Montmorin pour lui dire, voilà, on va éteindre la lumière. Bon, c'était la première commune sur sa juridiction qui faisait ça. Donc, il a eu peur aussi. Il a dit, je vais avoir plus de travail, plus de... donc, il était presque réticent. Et un an après, il est venu avec moi faire une intervention pour dire tous les bienfaits que pouvait avoir l'extinction de la lumière. Donc, voilà, c'est... Même lui en a admis que pour des communes de jusqu'à 2000 habitants, 2500 habitants, c'était... Il y avait une baisse de l'insécurité, il y avait une baisse de l'accidentologie aussi, oui. Parce que la nuit dans le village, si c'est pas éclairé, les véhicules roulent moins vite. Oui. Donc il y a tout, et puis l'économie. Hein, voilà. Et nous on l'a fait en premier pour l'économie, et après on a découlé, on est devenu, on a le label village étoilé, oui. Donc voilà, ça fait partie, c'est un petit peu, c'est pas que pour ça.
Et la faune aussi, non? Les chiroptères, toutes
tout
les espèces.
C'est peut-être là que Guillaume voulait intervenir, justement.
Oui. Ben, donc on parle de plus en plus donc, de pollution lumineuse, parce que voilà, il y a des effets vraiment importants sur toutes les espèces nocturnes, qui vont, donc notamment les insectes, hein. On sait très bien que selon les longueurs d'onde, les luminaire attire énormément d'insectes nocturnes, et tout ça peut entraîner donc une modification des populations, des états de population, et notamment si on fait le parallèle avec les chauves-souris, il y a certaines espèces qui sont lucifuges, qui vont carrément fuir la lumière parce que de par leur écologie, leur exigence, et d'autres espèces au contraire vont vraiment bénéficier et profiter de la mise en lumière et venir prédater plus facilement les animaux, les insectes nocturnes qui tournent autour des luminaires. Donc ça peut modifier profondément les populations et l'équilibre entre proies prédateurs au niveau local. Et puis après, donc on parle de plus en plus de trames noires, donc justement d'essayer de garder des secteurs entiers, des corridors noirs qui permettent à ces espèces-là, lucifuges, de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, comme on parle actuellement du réseau écologique au niveau terrestre, donc que ce soit des corridors, des continuums. Voilà, c'est quelque chose de très important, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais la lumière peut être une barrière pour certaines espèces.
Est-ce que dans votre périmètre, au niveau des autres mers, est-ce que ça y est, maintenant certains commencent à se dire, tiens, pourquoi pas, je vais tenter, vous avez un petit peu des retours? Je ne vous demande pas des noms, hein, ni des communes.
Non, on en parle, oui. Je sais qu'il y a des maires qui ont fait ça déjà sur le plateau, le plateau de Sceaux. Je sais qu'il y a des maires qui font l'extinction, qui pratiquent l'extinction des lumières. Donc voilà, c'est bon. Il y a le côté corridor noir, mais il y a aussi l'économie. Hein,
l'économie c'est sûr. Voilà,
on cherche à faire des économies de partout. C'est vrai que c'est. Et puis, il faut se rassurer aussi par la sécurité n'est pas des habitants. N'est pas en danger quand on éteint la lumière.
Tout à fait.
Donc, voilà. Il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que très longtemps après, parce que voilà, entre minuit et 5 heures, c'est rare qu'on soit dehors. Et voilà.
Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, alors on arrive pratiquement au terme de cette émission. Peut-être Anthony ou Lise, le petit mot de la fin, non, pour conclure, Anthony?
Mais je pense qu'on a bien parlé. Hein,
on aurait
des
pu parler des produits phyto aussi. On aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi, parce que beaucoup de communes font d'énormes efforts, l'ont totalement basé. Même monsieur le maire pourrait revenir dans une autre émission, parce que même jusqu'au cimetière, on peut le dire, hein, vous avez carrément, vous, on en reparlera peut-être dans une autre émission, parce qu'on n'a malheureusement pas assez de temps, mais voilà, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, et je vous laisse poursuivre.
Voilà, c'est vrai que la biodiversité, comme on l'a souvent dit, ça fait partie de notre patrimoine, il faut pouvoir la préserver et la prendre en compte quand on agit, voilà, sur des projets, etc. Et ce qui a permis d'ailleurs à Ville-sur-Ozon de pouvoir candidater au concours Capitale Française de la Biodiversité, d'être êtes finaliste aujourd'hui. Monsieur le maire est modeste, il ne vous l'a pas dit, mais la commune est finaliste de ce concours-là. On aura les résultats à l'automne. Et aussi d'avoir pu avoir un label territoire engagé pour la nature à hauteur de 2 libellules. C'est-à-dire que c'est le classement qui est fait. Ça va de aucune libellule à 5. Et là, en l'occurrence, il y en a 2, ce qui prouve un bon engagement aussi de la commune pour préserver la biodiversité. Donc, quand on veut, on peut. Encore faut-il passer un peu de temps, c'est sûr. Ça demande un peu d'argent aussi. Mais l'intérêt d'un parc naturel régional, c'est justement de soutenir les communes qui veulent faire plus, mieux, pour la prise en compte de la biodiversité. Et puis, plus largement, sur des questions touristiques, de conciliation d'usage, agricole aussi. Ça, c'était l'objet de l'ancienne émission de l'autre jour. Donc, voilà.
En tout cas, merci. Monsieur le maire, félicitations également, effectivement, pour ce. C'est des choses qu'on ne connaît pas, les libellules. On connaît les fleurs, parce que ça, tout le monde le sait, une fleur, deux fleurs, trois fleurs, village fleuri. Mais je ne connaissais pas, Anne, tu connaissais cette.
Non, pas du tout.
Donc ça prouve bien qu'on ne met pas, qu'on met pas assez en avant. Et on essaiera, nous, justement, maintenant qu'on est sur le sujet, de le mettre un petit peu plus en avant. En tout cas, merci à tous les. Je suis en train de compter les quatre, pardon, et plus les cinq avec toi, Anne. Merci d'avoir participé à cette émission. Donc je rappelle que nous avions monsieur Frédéric Rouet, maire de Ville-sur-Ozon, vice-président de communauté. De la communauté de communes de Ventoux Sud. Merci d'avoir pris votre temps pour venir dans cette émission.
Merci
également à Lise Collin, chargée de mission écotourisme au syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux. Merci Lise d'être venue également dans cette émission.
Merci à vous.
Merci monsieur monsieur Guillaume Folly, ingénieur écologue. On en connaît maintenant un petit peu plus sur votre superbe métier au bureau d'études Odyssée environnement Asso. Merci également d'être venu.
Avec plaisir.
Et merci à notre technicien du jour, Anthony, qui est donc responsable de l'unité patrimoine naturel, chargée de mission également biodiversité et espace naturel au syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux. Merci également à Anne de m'avoir assisté dans cette émission.
Merci à tous les invités, surtout.
Voilà, et on se donne rendez-vous pour le quatrième numéro, sûrement à la rentrée. Je pense, Anthony, ça se fera à la rentrée maintenant, le quatrième numéro. On verra avec le Ken pour ce quatrième numéro de Des Pieds dans le Parc. Merci, à très bientôt. Passez un bel été, de belles vacances et puis bien sûr, restez prudents et puis faites attention à la nature. C'est ce qu'on peut dire en un mot de la fin.
Parfait.
Profitez de la nature et faites attention. Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous venez d'écouter Les Pieds dans le Parc, une émission réalisée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et le SMAEV, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.